France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et anthropologue aussi ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque vendredi, l'un ou l'une d'entre eux, d'entre elles, vient nous en parler. Et aujourd'hui, notre invitée, philosophe et académicienne, a choisi d'évoquer le poème des poèmes. Celui qui nous entraîne vers l'ailleurs des cyclopes et des sirènes, de l'île de Calypso au royaume des morts, mais reste le poème du retour chez soi, celui dont le héros n'est autre que...
Ulysse. Dans l'Antiquité, les gens qui ne connaissaient son nom et son histoire, de nos jours encore, est-il un homme se disant cultivé qui ne les connaisse, ou du moins ne se pique de les connaître? Pour devenir un des principaux personnages de l'Iliade, pour devenir le grand héros de l'Odyssée et lui donner son nom, car les Grecs appelaient Odysseus, celui dont les Latins déformèrent le nom en Ulysses, ne fallait-il pas que cet Ulysse se distinguât des autres héros par quelques qualités rares? Tel qu'il se présente dans l'Iliade et dans l'Odyssée, Ulysse, parmi les rois achéens qui s'en viennent combattre sous les murs de Troie, n'est en aucune manière un des plus puissants ou un des plus riches. Ulysse ne se distingue même pas par la grande taille et la forte carrure d'un Ajax ou d'un Achille. Mais s'il n'a pas grand héritage, s'il n'a pas haute stature, il a reçu des dieux un don plus précieux encore. Il impose à ses pairs comme à ses sujets. Il a reçu la force de l'intelligence et la force du caractère.
Bonjour Barbara Cassin.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, académicienne, sort aux éditions Flammarion votre roman graphique L'Odyssée au Louvre. Nous allons donc tout naturellement parler de ce poème des poèmes. Mais au-delà de cette actualité éditoriale, Barbara Cassin, pourquoi avoir fait ce choix de l'Odyssée?
À cause du grec d'abord, c'est-à-dire que c'est probablement le premier texte grec qu'on m'a fait lire. Et qu'on m'a fait lire en grec aussi. Et donc ça compte beaucoup. Et aussi parce que c'est le texte qui transparaît sous tous les textes grecs. C'est-à-dire que c'est le palimpseste des palimpsestes, il est toujours dessous. Et quand je me suis intéressée en philosophe à la Grèce, eh bien par exemple quand j'ai travaillé le poème de Parménide, qui est, dit-on, le premier philosophe grec, j'ai trouvé Ulysse, j'ai trouvé l'Odyssée sous l'être. Donc voilà.
Donc pour vous, l'Odyssée, plus que vous parlez de Parménide, par exemple, vous avez travaillé sur Parménide, vous auriez pu choisir ce philosophe, mais vous choisissez malgré tout Homère.
Mais j'aurais pu choisir Gorgias.
Oui, aussi. C'est vraiment... Vous avez travaillé sur la sophistique, la
voilà.
Rhétorique.
Oui, mais d'une certaine manière, Ulysse, c'est... un sophiste magnifique, c'est-à-dire qu'il partage avec les sophistes la métisse, l'intelligence rusée qui caractérise le poulpe, qui caractérise Athéna et qui le caractérise lui et qui caractérise les sophistes. Donc, d'une certaine manière, en choisissant l'Odyssée, je n'oublie pas tout ce qui, au fond, a constitué mon trajet.
Mais c'était en même temps, c'est ça qui est intéressant, Barbara Cassin, le premier, c'est-à-dire que finalement, on s'aperçoit parfois au bout de plusieurs années de travail qu'il y a une grande cohérence malgré nous dans notre parcours. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, ce texte, vous l'avez découvert quand vous faisiez du grec. On fait du grec au collège.
Oui, oui.
Donc en fait, entre aujourd'hui et vos 14 ans à peu près, il y a quand même une très grande cohérence. Votre vie est cohérente, Barbara Cassin.
Oh là!
En tout cas, dans la pensée.
Mais vous savez, quand j'ai voulu rentrer au CNRS, je me souviendrai toujours, il y a quelqu'un qui a rapporté sur moi en disant « On aurait tort de croire que les intérêts de la candidate ne sont pas cohérents. » Et en fait, c'était quelqu'un qui me détestait et qui ne voulait pas que je rentre.
Et pourquoi la cohérence, du coup, était un problème à ce moment-là ?
Non, c'est parce que ça n'avait pas, j'avais pas l'air d'être cohérente.
Oui.
C'est parce que, m'intéressant justement à des choses apparemment aussi différentes que, je sais pas, Homère et les sophistes, ou que la traduction, des choses qui impliquent des tentatives de pensée différentes, vous voyez. Alors là, c'était terrifiant. C'était un moment où je faisais aussi le dictionnaire des intraduisibles, où je commençais à travailler là-dessus. Et donc, tout ça paraissait... Je travaillais aussi à la commission Vérité et Réconciliation. Tout ça avait l'air absolument de membra digecta, de trucs épars, comme des... Mais pas du tout. En fin de compte, tout ça est effectivement terriblement cohérent, mais pour un regard rétrospectif, c'est-à-dire pour un regard de vieille.
Donc aujourd'hui, vous savez ce qui rassemble ces différents membres épars, comme vous le dites, Barbara Cassin, c'est quoi ? C'est la langue ?
Oui, c'est la langue, c'est le jeu sur la langue, et même, je dirais, c'est le rapport entre les langues. C'est plutôt le « entre » qui le rassemble. Et ce qu'on peut faire avec les mots, par exemple la Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, ce qu'elle a fait avec les mots, c'est qu'elle a construit le peuple arc-en-ciel. Donc c'est... Il y a quelque chose là de la performance des mots.
Quel premier souvenir gardez-vous de votre lecture de l'Odyssée d'Homère ?
En fait, j'ai un souvenir de récitation, moi. C'est-à-dire que
Donc déjà de performance,
oui,
de la langue.
Oui, parce que le professeur qu'on avait en quatrième, elle était formidable, elle nous obligeait à apprendre par cœur des bouts. Alors, donc... Pour apprendre par cœur et pour retenir, il faut quand même comprendre. Et je me souviens que, on avait par exemple 5 vers à apprendre par cœur. Et je les récitais dans le métro en allant au lycée. Donc ça, c'était magnifique. Et je me souviens même quels vers
Allez-y.
M'ont marqué. Alors, je vais me planter un peu.
C'est pas
mais
grave.
Quand même.
Je ne parle pas bien le grec en soi pour vous reprendre.
Non, mais je me souviens du moment où, Thétis, la mère d'Achille, lui donne ses armes et où ça, tous les deux savent qu'il va mourir, qu'il a choisi de mourir jeune. Il a choisi la gloire. Et donc, on entend quelque chose comme « Oxu de cocusasa », c'est-à-dire un espèce de truc complètement en hauteur, comme ça. Et ça, c'est la manière dont Thétis pleure. Et Achille « Baru de stenakone », c'est-à-dire c'est la manière dont lui soupire profond. Et ça m'avait vraiment marqué. Alors, c'est peut-être pas ça le vers, mais il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire il y a de l'aigu et du grave, et ça se marie comme ça peut.
Mais ça tient à quoi, Barbara Cassin ? Ça tient à la langue grecque, ou ça tient aussi à des indications de votre professeur, sa propre lecture, ou presque même des indications du type didascalie dans le texte, où en fait on projette que le fils va parler comme ça et la mère, une femme, va plutôt être dans la tristesse de manière stridente.
Non, mais c'est comme ça tout au long des vers grecs.
Donc c'est la langue grecque qui permet ça, cette plasticité.
Mais toutes les langues le permettent. Ariane, ma sœur, de quel amour blessée, le français le permet 100 fois, tout le temps.
Mais on pourrait très bien dire Ariane, ma sœur, on pourrait le dire aussi comme ça.
Non.
Non, ça marcherait pas.
Bon, non, vous voyez bien.
C'est vrai que non, ça marche pas. C'est un peu ridicule, mais parce qu'on connaît déjà un peu le texte.
Oui.
On projette aussi dessus.
Ben oui, mais le son et le sens sont quand même, dans les grands textes, absolument à parier.
Donc, le premier souvenir que vous gardez de l'Odyssée d'Homère, Barbara Cassin, c'est vraiment la récitation de vers
oui.
en entier, et plus en fait de son,
oui.
d'une ambiance.
Oui, oui, c'est-à-dire d'une joie de comprendre que quand on parle, ça fait de l'effet. Parce que c'est ça, quand même, la magie du son. C'est que quand on parle, quand on a une voix et qu'on dit des mots, on entend les mots et ça produit quelque chose. Ça produit quelque chose d'un peu magique qui est très efficace.
Vous imaginez à la radio alors ?
Mais oui, mais moi je ne peux pas écouter la radio. Jamais j'écoute la radio parce que ça me bouche tous les pores du cerveau. C'est-à-dire ça m'oblige à écouter et je ne peux rien faire d'autre. Alors ça, ce n'est pas possible.
Donc vous n'êtes pas une auditrice de France Culture qui fait votre repassage en écoutant.
Un, je repasse pas parce que je sais pas repasser. Et deux,
oh, mais prenez vos la cuisine par exemple.
Et ben justement, ça, non, moi entendre la radio, ça m'occupe entièrement ou ça m'occuperait entièrement. Mm. C'est-à-dire que ça m'empêche de rêver. Et ça c'est terrible quand je fais la. Quand est-ce que je rêvais si, quand est-ce que je rêverais si ce n'est pas quand je fais la cuisine ou la vaisselle.
Ou dans le métro?
Dans le métro, je regarde.
Vous avez choisi pour nous, Barbara Cassin, plusieurs moments de l'Odyssée d'Homère. Il y en a certains qu'on a trouvés en extrait dont vous parlez dans votre livre qui paraît aux éditions Flammarion. Et il y a quand même ces premiers mots que vous teniez à nous dire. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous lire, lire le tout début de l'Odyssée, s'il vous plaît?
Oui. Le tout début de l'Odyssée, voilà. L'homme, mets-le-moi en mots, muse. Celui aux mille tours qui beaucoup et tant erra après avoir ravagé la citadelle sacrée de Troie. De tant d'hommes il vit les villes et comprit la pensée. Tant de douleurs sur la mer il subit en son cœur, luttant pour la vie et le retour de ses compagnons. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que j'adore le début. Andra moi enepe moussa. L'homme, pour moi, mets-le en mots, enepe, dans les mots, muse. Je trouve ça magnifique parce que c'est la muse qui parle. C'est la muse qui donne les mots. C'est quand même pas la même chose que dans Virgile, dans l'Énéide, où les mots, c'est le poète qui les dit d'abord, tout seul, cano, je chante. Et évidemment, c'est pas la muse qui lui met les mots dans la bouche, c'est Auguste. Bon. Tandis que là, d'une certaine manière, les mots viennent de cette doublure du monde que sont les dieux, que sont les muses. Et c'est ce que dit tout le temps Nietzsche, et j'adore la manière dont Nietzsche lit non seulement Homère, mais lit les Grecs. Il dit il y a une doublure de monde.
Ça veut dire quoi pour vous, doublure de monde?
Ça veut dire que le monde, le cosmos existe, le cosmos des hommes, des humains, mais il n'est tel que parce qu'il y a en même temps en lui, ou au-dessus de lui, ou en dessous de lui, comme vous voudrez, le doublant, le monde des dieux. Et le monde des dieux, c'est le monde païen, enfin, le rapport entre Dieu et homme, c'est ça qui fait le paganisme. J'adore ça. C'est-à-dire que, du coup, dans ce monde-là, celui qui arrive en face peut être un dieu. Et je pense que c'est pour ça que j'aime le cosmos païen. Celui qui arrive en face peut être un dieu. Si on pensait ça, au lieu de penser juste qu'on est tous à l'image de Dieu, mais de s'en foutre, eh bien là, peut-être qu'on ferait attention aux nouveaux arrivants.
Peut-être qu'on agirait comme des dieux.
Peut-être qu'on agirait comme des hommes, c'est-à-dire...
Oui, plutôt.
Voilà, comme des hommes dont la doublure est divine. Il y a une très belle phrase de Nietzsche qui dit « Homère est un grec rêvant. » Et tous les grecs rêvants sont des Homères. Et c'est lui qui dit qu'il y a une doublure du monde, des hommes, qui est les dieux. Je trouve que c'est magnifiquement juste.
Mais une doublure, ça fait un peu penser à quelque chose en plus, en trop, qui n'est pas l'original.
Ah non, moi ça me fait penser à ce qui est sous...
Dans un manteau.
Oui.
Alors que moi je pense à la doublure de cinéma.
Non, mais vous pensez au cinéma, au théâtre, et oui. Moi je pense au manteau, et je pense à cette très belle phrase sur la traduction, qui est une phrase... chinoise, je crois autour du 16e, 17e siècle, où on dit « traduire, c'est comme retourner une soie brodée. Le dessous n'est pas comme le dessus. » Et pourtant, c'est la même chose.
On connaît très peu ce début, en fait, de l'Odyssée d'Homère. C'est un texte, en fait, qui est connu de tous, en tout cas on l'a tous croisé au collège, au lycée, en se disant que c'était les aventures d'Ulysse qui devait rentrer chez lui après la guerre de Troie et qui n'y parvenait pas ou qui devait y parvenir après de multiples épreuves. C'est vrai que c'est ça
c'est
le
vrai.
Texte. Mais on oublie la dimension parfois chantée, orale. En lisant le texte, il apparaît pourtant vraiment de manière frappante que Télémaque raconte les aventures, Ulysse raconte les aventures, Ulysse fait un flashback de ses propres aventures. C'est vraiment un récit enchâssé qu'on a à lire, et presque une série d'aventures.
Oui, c'est une série d'aventures. Le plan de l'Odyssée est inconnu, inconnaissable. Et bon, on appelle ça une composition en anneaux parce qu'on ne sait pas comment la gérer.
Mais pas en doublure en tout cas.
Pas en doublure. Et quelqu'un comme Bérard, comme Victor Bérard, qui l'a traduit. On a sa traduction dans la collection des Antiquités de France, là, la collection Budé. Il n'arrête pas. C'est illisible. Hein. Sa traduction, parce que il est honnête. Alors, il dit non, ça devrait pas être là. Hein. Alors, je le laisse là quand même, parce que ça a été transmis là, mais je le mets là où ça doit être. Donc, les mêmes textes apparaissent deux fois, trois fois. C'est complètement délirant. Et il faut savoir que Bérard, que j'adore, parce que sa traduction, pour moi, c'est comme Chanel 5, c'est-à-dire... c'est-à-dire que c'est impeccable dans le genre.
Bon. Mais on n'en met plus.
Ouais, on n'en met plus, c'est pas mon genre. Bon. Mais c'est impeccable, c'est 1900. C'est... Mm. Et donc, Bérard, il est parti en bateau et il a essayé de retrouver les étapes du voyage d'Ulysse. Bon. Bah, c'est la même chose, là. Il essaye de retrouver la vraie composition de l'Odyssée, le vrai texte. Et bon, Nietzsche dit pas la peine d'insister, hein. Personne ne sait. Homère n'existe pas, le vrai texte, le texte original, on ne sait pas ce que c'est, et la langue qui est parlée dans l'Iliade et l'Odyssée, dans les poèmes homériques, elle n'a jamais été parlée par personne.
Mais la preuve que non, puisqu'on l'a traduit.
Non, mais on peut la chanter, etc. Ouais. Mais il n'y a pas jamais les Grecs...
N'ont parlé comme ça.
Mmh. Voilà.
Sauf une langue courante.
Non, mais même pas du tout. Comme les aèdes, c'est comme si vous disiez que maintenant, qu'un jour... Non, je ne peux pas dire ça, parce que c'est vrai qu'on a parlé comme la chanson de Roland.
Oui.
Mais là, on n'a jamais parlé comme ça. Mm. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été fait à partir de plusieurs dialectes, fait à partir de plusieurs dialectes grecs, mélangés. C'est quelque chose qui a été fait et transformé en inventant des mots pour que ça rentre dans les dactyles ou les spondées, c'est-à-dire dans les pieds qui font le chanté-parlé du grec, etc.
Comment vous pourriez traduire, vous l'avez dit Barbara Cassin, vous avez travaillé sur la langue, sur l'antre, les langues, sur les intraduisibles. Vous avez lu le début de l'Odyssée, c'est vous qui l'avez traduit. C'est quoi une bonne traduction pour vous de l'Odyssée?
C'est une entre autres, déjà.
Oui.
C'est-à-dire que...
Ne pas se prétendre la meilleure.
Ah oui, non, ça c'est pas possible. Mais j'ai quand même une vieille... un vieil amour, on va dire, bolacien. C'est-à-dire Jean Bolac a été à un moment quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Et... Lui, il avait une manière de traduire, brutale et magnifique. C'est-à-dire qu'il essayait de comprendre le grec mot après mot et à l'intérieur de chaque mot. Et puis, il le traduisait de manière rauque. Et là, c'est rauque.
Donc vous avez gardé le côté rauque.
Ne serait-ce que l'ordre des mots, Andra, Moi, En, Népé, Moussa. L'homme, Andra, Moi, pour moi, En, Népé, mets-le dans les mots. Moussa, muse. Et après, bon, Polytropone, l'adjectif qui définitionnel d'Ulysse. Hein. Mm. Ulysse est polytrope, ça veut dire quoi? Bon, il tourne tout le temps sur lui, il a plus d'un tour dans son sac, il est aux mille tours, c'est pas mal traduit par Bérard.
Ou l'inventeur, le malicieux, le pas malicieux. L'inventeur.
Non, parce que tropone, c'est très joli. Mm. C'est vraiment, ça se dit pour les tours de rhétorique aussi. Hein, c'est les figures de rhétorique. Il est capable. Et puis, c'est véritablement l'image de la métisse, c'est-à-dire des bras du poulpe qui bougent tout le temps et qui se tournent et puis ils vous attrapent quand même. Mm.
Enfin, avant de pouvoir se tourner et être aussi agile, Ulysse connaît donc, je l'ai dit, des épreuves. Et on va en écouter une épreuve qu'il subit avec les cyclopes, enfin un cyclope notamment, et qui est une des étapes qui vous a marqué, Barbara Cassin.
Cyclope, un coup de vin sur les viandes humaines que tu viens de manger. Tu verras la boisson que nous avions à bord. Dis-moi tout de suite ton nom.
Tu veux savoir mon nom le plus connu, Cyclope? C'est... Personne. Mon nom.
Eh bien, je mangerai personne le dernier. Après tous ses amis. Le reste ira devant.
Et le sommeil le prend. Invincible dompteur. Mes gens debout m'entourent. Un dieu les animait d'une nouvelle audace. Ils soulèvent le pieu. Dans le coin de son œil, ils en fichent la pointe. Nous tenions et tournions notre pointe de feu, et le sang bouillonnait autour du pieu brûlant. Paupières et sourcils n'étaient plus que vapeur de la prunelle en flamme, tandis qu'en grésillant, les racines flambaient. Il eut un cri de fauve. La roche en retentit, mais nous, épouvantés, nous étions déjà loin. Il s'arrache de l'œil le pieu trempé de sang. Il le rejette au loin de ses mains en délire. Il appelle à grands cris ses voisins, les cyclopes.
Polyphème! Pourquoi ces cris d'accablement? Pourquoi nous réveiller en pleine nuit divine? Serait-ce ton troupeau qu'un mortel vient de prendre? Est-ce toi que l'on tue par la ruse ou la force? La ruse, mes amis, la ruse! Et non la force! Et qui me tue? Personne!
Barbara Cassin, que pensez-vous du texte, de la langue, de cette adaptation radiophonique du 11 novembre 1956? Ça s'appelait « Le sillage des ondes », c'était diffusé sur la chaîne nationale et qui donc a adapté, on l'a entendu, ce fameux épisode du cyclope Polyphème, dont rendu aveugle par Ulysse et par la ruse.
Oui, ben, pour moi, il se joue là quelque chose de décisif, qui est l'invention du signifiant. C'est-à-dire que, alors là, il faut vraiment expliquer.
Oui, hein. Allez-y.
Bon. Personne en grec, ça se dit outis, pas quelqu'un. Bon.
Quand on dit il n'y a personne.
Quand on dit il n'y a personne, on dit outis. Bon, pas quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a personne. Et donc, ce qu'il y a, la première chose extraordinaire, c'est que quand le cyclope demande à Ulysse comment il s'appelle, Ulysse lui dit, on l'a entendu, je m'appelle Outis. Je m'appelle personne. C'est comme ça que tout le monde m'appelle. Mes parents et mes compagnons. Quelle idée, la traversée. Vous voyez? Mais quelle idée! Vous auriez idée, vous, de vous dire, je m'appelle personne?
Bah non, mais je ne suis pas Ulysse.
Bah non, vous n'êtes pas Ulysse et vous ne voyez pas trois coups après.
Oui.
Voilà. Alors donc, Ulysse dit, je m'appelle personne. Et le cyclope, je te mangerai en dernier. Bon, d'accord, très bien. Parfait. Il faut comprendre que le cyclope, il est le contraire de tout ce que les Grecs prônent. C'est-à-dire qu'il est anthropophage. Au lieu d'accueillir, l'hospitalité, c'est la vertu grecque par excellence. Hein. C'est comme ça que les Grecs... je veux dire, il y a une réciprocité nécessaire dans l'hospitalité. Donc là, Ulysse arrive avec ses compagnons et voilà que le cyclope se met à les bouffer. Anthropophage. Atroce. Bon. Donc, je m'appelle personne. Outis. Alors, suit la ruse inventée par Ulysse. Et cette ruse consiste, vous l'avez entendu, à chauffer, à donner à boire au cyclope.
À l'enivrer.
À l'enivrer. Il se met à dormir, à ronfler. Et à ce moment-là, on a chauffé un pieu qui se trouvait là. On l'a chauffé dans le feu qui est là. Et on se met à aveuglé en tournant comme ça, en mettant le pieu dans l'œil du cyclope, voilà. Donc, le cyclope est aveugle. Reste encore un problème qui consiste à sortir de l'antre du cyclope parce que le cyclope a fermé sa grotte en mettant devant l'entrée un rocher si lourd que lui seul peut le pousser. C'est un géant. Bon. Alors, il faut quand même arriver maintenant à sortir. Et là, il faut une sacrée ruse. Et ruse, on va y venir, et vous allez comprendre pourquoi c'est important. Ruse, sagesse rusée, ça se dit en grec « metis ». Pas « outis », pas « personne », mais « metis » en un seul mot. Métis, la ruse. Sauf que métis, ça veut aussi dire pas quelqu'un. C'est les mêmes, la même manière, le mot est fait de la même manière que outis, mais avec une autre négation. Il y a deux négations en grec. La négation de fait, ou c'est un fait, il n'y a rien. Et la négation de droit, mais, ah, il n'y a surtout rien. C'est interdit qu'il y ait quelque chose. Bon. Donc, vous avez en concurrence deux mots. Outis pour dire personne, métis pour dire aussi personne, absolument pas quelqu'un, mais pour dire, car c'est équivoque, en un seul mot, la ruse. Alors, je reprends le fil de mon récit.
Oui, du signifiant.
Le fil de mon récit qui est, qu'est-ce qui arrive quand les Grecs qui ont aveuglé le Cyclope et il faut qu'ils sortent. Bon, il faut qu'ils sortent. Et à ce moment-là, Ulysse a l'idée de faire en sorte que le Cyclope leur ouvre quand même, sans savoir que c'est eux qui sortent. Et il fait accrocher tous les Grecs aux brebis qui sont à l'intérieur de l'antre du Cyclope, car le Cyclope est avant tout un berger qui fait des fromages, etc. Mmh. Un bon berger qui aime beaucoup son troupeau. Et il va falloir qu'il les fasse sortir. Les brebis ne vont pas rester enfermées à ne rien manger comme ça. Bon. Donc le Cyclope va pousser le rocher qui obture
la grotte dans laquelle il les enfermait.
Et pour faire sortir les brebis. Et les Grecs, les compagnons d'Ulysse et Ulysse, s'accrochent sous le ventre des brebis. Ulysse sous le ventre du bélier. Bon. Et donc, ils sortent tous. Et le cyclope tâte les brebis, mais il tâte le haut. Il ne tâte pas leur ventre. Mmh. Donc, il les laisse sortir. Et voilà que les Grecs sont dehors. Donc, ils ont gagné. Alors, ils ont gagné. Le cyclope se met à hurler de toute manière et à meute les autres cyclopes, ses copains, qui habitent dans le coin. Mmh. Et les cyclopes lui disent, on l'a entendu, « Qui ? On t'a fait mal ? Qui t'a fait ça ?» Et le cyclope répond, « C'est personne !»«
Outis !»«
Outis !» À ce moment-là, les autres cyclopes disent, « Si c'est personne, va te coucher, t'as fait un mauvais rêve, c'est pas grave. Mmh. » Bon. Or, là, à ce moment-là, les Grecs sont sortis. Ils prennent leur bateau. Et là, Ulysse ne peut pas s'empêcher de dire « Je t'ai bien eu, c'est Ulysse, fils de Laërte, qui t'a eu. C'est ma métisse qui t'a eu. C'est ma ruse, ma sagesse. »
Donc il se sent obligé de se nommer malgré tout.
Voilà, alors il se nomme. Donc si vous voulez, dans cette scène, il y va de la nomination de quelqu'un.
Et pourquoi c'est une question de signifiant, Barbara Cassin ?
Eh bien parce que métis, ça veut dire personne, et métis, ça veut dire ruse.
Mm.
Donc, pendant l'échange, il y a sans arrêt, c'est pas quelqu'un qui, c'est métis qui, mm. C'est ma ruse qui. Voilà. Donc, ça joue outis, pas quelqu'un, métis, pas quelqu'un, personne, et métis, la ruse. Et ça, c'est l'invention. Ce jeu de mots, c'est l'invention du signifiant. Et en même temps, il est là avec la nécessité de se nommer pour qu'on sache que c'est lui, personne. Lui, Ulysse, et sa métisse. Mm. Bon. Donc, vous voyez, il y a véritablement un jeu de mots affolant.
Mais il y a un jeu de mots même créateur de l'être qui est l'être d'Ulysse. C'est-à-dire, avec un jeu de mots, il arrive à se nommer lui-même et à exister.
Oui, c'est-à-dire que...
Ou je vais trop loin, j'ai l'impression.
Non, vous n'allez pas trop loin. Il y a des étapes dans l'identité d'Ulysse. Voilà.
C'est ce que vous dégagez dans votre,
oui.
dans votre livre, effectivement,
oui.
Barbara Cassin. Il y a le fait déjà de choisir la mortalité. C'est-à-dire,
voilà.
Quand il est avec Calypso, il pourrait... Ulysse est dans cette île paradisiaque avec Calypso. Il pourrait y rester, vivre sa meilleure vie. Et il ne veut pas. Il est
voilà.
pris de nostalgie. Il veut rentrer chez lui.
Voilà. Il pourrait épouser la nymphe.
De retrouver le temps.
Voilà. Il pourrait épouser la nymphe aux belles boucles. Et il lui dit non, désolé, toi t'es belle, t'es immortelle et tout ça, j'aime mieux Pénélope qui a dû vieillir parce que ça
avec sa vieillesse, avec son temps, avec son âge.
Et il part sur un radeau. Bon. Ouais. Donc, il part affronter un retour dont on ne sait pas si ça va marcher. Donc ça, c'est son premier trait humain, c'est d'être mortel. Son deuxième trait humain, c'est d'avoir un nom. Et c'est là qu'il l'acquiert. Il s'appelle Outis, personne. Il s'appelle Ulysse, fils de Laërte. Et c'est sa métisse qui le sauve. Et donc, il existe en tant que produit d'un jeu de mots aussi.
Mais qu'il fait lui-même.
Absolument.
C'est ça qui est intéressant, Barbara Cassin, c'est qu'il se... Parce qu'on est tous avec un prénom et un nom. Mais le fait de le choisir, de l'accepter, c'est différent, en fait. Oui. C'est se faire naître.
Ah, oui. Parlez pas, parce que moi, je m'appelle Barbara. Oui. Enfin, c'est le prénom que j'ai choisi, parce que je m'appelle Laure Sylvie Barbara.
Et c'est votre troisième prénom.
C'est mon troisième prénom, et je l'ai choisi dès que j'étais toute petite. Mais Barbara, ça veut dire blablabla. Blablabla. Oui. Vidal Naquet m'appelait Barbara la barbare. C'est-à-dire que, c'est vrai, je pourrais pas m'arrêter de parler, après tout. Et ça veut dire que, aussi, je parle comme une barbare, c'est-à-dire que les Grecs ne me comprennent pas.
On va écouter une autre étape dans la construction de l'identité humaine d'Ulysse.
Écoute ce que je vais te dire et qu'un dieu te le grave dans la mémoire.
Sois tranquille, ma jolie. J'ai de bonnes oreilles, j'en suis fier.
Pas trop. Il faudra te méfier d'elle plutôt que de t'en glorifier. Quand vous longerez le pays des sirènes, leur voix charme qui les approche, et si l'on cède à l'enchantement, finit le voyage. La prairie où elles habitent est ceinturée d'ossements blanchis et de débris humains.
C'est plaisant comme tout.
Passez sans ralentir.
Oh, sois tranquille.
Par précaution, pétris de la cire et bouche les oreilles de tes camarades.
Et les miennes?
Toi, puisque tu es si fier de tes bonnes oreilles, tiens-les ouvertes pour écouter cette musique de perdition. Mais fais-toi attacher au mât avec des câbles solides. Et quand il te viendra l'envie irrésistible de te faire délier, qu'à chacun de tes ordres, à chacune de tes prières, ton équipage fasse un nœud de plus.
Drôle de programme, déesse.
Le navire a pris la mer. Poussé par un zéphyr favorable, il approche de l'archipel des sirènes, non loin de la presqu'île de Sorrente. Ulysse a pétri la cire molle et assourdit ses rameurs après leur avoir donné l'ordre de l'attacher au mât et de ne le délier sous aucun prétexte. Les rameurs activent leur cadence. Déjà, la musique pernicieuse se répand sur les flots.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
L'épisode des sirènes dans l'Odyssée d'Homère, c'est ici une adaptation intitulée Les aventures d'Ulysse. C'était le 7e épisode et ça a été diffusé en 1954 sur Paris Inter. Qu'avez-vous pensé de cette adaptation, Barbara Cassin, avec un Ulysse à l'accent chantant du Sud?
Oui, avec une Circé très douce, etc. Non, c'est très bien. Je trouve ça toujours bien, moi, les adaptations. En même temps, là, qu'est-ce qu'on entend? On n'entend pas vraiment le chant des sirènes, qui est pourtant, ça vaudrait la peine. Et c'est pas grand-chose. Hein.
Vous pouvez le faire, le chant des sirènes, Barbara Cassin?
Ah oui. Viens là, gloire des Grecs, Ulysse au récit innombrable, arrête ton navire, afin d'écouter notre voix double. Nul n'est jamais par ici passé, non, pas un seul navire noir, sans écouter notre voix mélodieuse, ce miel de nos bouches. Mais charmé, on repart, et plus savant, on s'en retourne, car nous savons tout, toutes les peines dans la vaste Troade que par ordre des dieux, Achéens et Troyens ont souffertes, et nous savons tout ce qui advient sur la terre féconde. Alors évidemment, je vous l'ai lu en français, ça fait moche, hein.
Non, je dirais pas ça non plus, le texte est beau. Vous n'avez pas chanté.
J'ai pas chanté. Et bon, c'est assez étrange parce qu'elles ne disent pas grand-chose. Hein. Elles disent à Ulysse, viens ici, on va te raconter ce que tu sais déjà. Alors, il n'y a pas de quoi sauter à la mer et aller se noyer et aller pourrir sur leur île. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il se passe plusieurs choses. La première chose qui se passe, c'est que, au fond, ce qu'elle raconte, c'est l'Iliade dans l'Odyssée. Donc ça, c'est le moment de l'Iliade dans l'Odyssée. C'est le moment de correspondance, hein, d'insertion d'un poème dans l'autre. Et puis, ce qui se passe, c'est pas tellement leur chant qui est important, c'est la manière dont Ulysse est attaché au mât pour ne pas sauter. Alors, ça, on l'a bien entendu. On a bien entendu Circé qui lui recommandait de boucher les oreilles de ses compagnons et de lui de se faire attacher au mât. Et moi, ce qui m'a intéressé, mais follement, c'est que les mots qui servent à décrire Ulysse attaché au mât sont les mots que 5 siècles plus tard, Parménide, le premier philosophe, dit-on, celui qui peut vous épargner toutes les bibliothèques de la philosophie, comme dirait Heidegger, hein, c'est plus la peine. Vous avez Parménide, ça suffit. Bon. Eh bien, ces quelques mots-là sont les mots qui servent dans le poème de Parménide à décrire l'être. L'être que, pour la première fois, Parménide nomme comme tel. Le début du poème de Parménide, c'est... l'être est, le non-être n'est pas. Bon. Et à partir de là, tout s'enchaîne. Et l'être, c'est to eon, c'est-à-dire l'adjectif plus le participe présent. Et quand, au fragment 8, Parménide le décrit, il le décrit comme une sphère, attachée dans des limites de liens puissants, et empédone, les pieds plantés dans le sol. On rigole. Qu'est-ce que c'est que cette sphère empédone? Eh bien, c'est Ulysse. C'est-à-dire que les mots qui servent à décrire le héros de l'épopée, ce sont les mots qui servent à décrire le héros de la philosophie. Et ça, je trouve ça extraordinaire.
Qu'il n'y ait pas de différence entre les mots de la philosophie et les mots du mythe?
Oui, je trouve que ça en dit très long sur le rapport entre poésie et philosophie, sur le rapport entre épos, si vous voulez, épopée, et logos, le logos rationnel, que d'habitude on dit, ah là là, avant de passer de l'un dans l'autre, ben, tenez, les voilà, ils sont l'un dans l'autre. Et c'est volontaire, c'est-à-dire que Heidegger l'a pas vu du tout, Heidegger qui parle beaucoup de Parménide comme du premier philosophe.
Il n'a pas vu cette correspondance entre l'Odyssée.
Non.
Donc c'est vous qui l'avez vu, Barbara Cassin. Ça vous a sauté aux yeux?
Non, ça ne m'a pas sauté aux yeux. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est le mot empédone. Empédone, c'est l'adjectif qui sert à décrire Ulysse attaché au mât, les pieds dans le sol du navire, et qui sert à décrire la sphère de l'être. Eh bien, ça m'a sauté aux yeux quand j'ai lu Schleiermacher, c'est-à-dire celui qui est vraiment le grand philologue, qui dit, vous savez, le palimpseste, ça se voit avec une particule, un mot. Un mot, c'est un index levé. Eh bien, ce mot-là, c'est empédone. C'est un index levé qui vous fait passer d'un texte à l'autre. Les pieds solidement plantés dans le sol, Ulysse attaché à son mât, et la sphère de l'être, comme ça, voilà.
Ce qui est une étape donc de l'identité humaine, comme vous le dites, Barbara Cassin, il y a le fait de se nommer, c'est-à-dire non pas seulement de subir son nom, mais aussi de choisir son nom et de le clamer, comme vous avec Barbara.
Oui.
Et puis il y a aussi le fait d'avoir une identité ferme, enracinée.
Absolument.
Mais jusqu'où cette identité ferme, elle n'est pas subie elle aussi. C'est-à-dire que là, c'est un commandement de Circé face aux sirènes.
Oui, enfin, c'est surtout parce que c'est l'étape des sirènes, c'est l'étape de l'identité à soi. Et la preuve, c'est que sur les vases grecs que moi je travaille, grâce au Louvre, entre autres, il y a sur un petit coin de vase, le petit coin du vase sur lequel on voit Thétis, justement, remettre ses armes à Achille et Ulysse tourner le dos. Incroyable. Le rapport entre l'Iliade et l'Odyssée, Ulysse s'en va. Bon, il va ailleurs, il n'est pas dans l'Iliade. Bon. Et bien, sur un petit coin de ce vase, sur le col de ce vase, il y a une sirène, c'est-à-dire un petit oiseau. Les sirènes sont des oiseaux, elles n'ont pas du tout des jambes
queues de
poisson.
Là, bon. Ce sont des oiseaux, enfin en tout cas, dans l'Antiquité grecque,
ce sont des oiseaux. Ben, il y a un petit oiseau noir qui dit « Seirene aimi, je suis la sirène ». c'est écrit. Autrement dit, l'identité de la sirène, c'est d'avoir une identité. Elle s'appelle Sirène. Je suis la sirène. Eh bien, c'est elle qui fait que Ulysse, c'est Ulysse. Autrement dit, c'est pas pareil de savoir qui on est et de se l'entendre dire. Et se l'entendre dire, enfin bon, là, j'effleure l'intérêt de la psychanalyse. S'entendre dire qui on est quand on le sait sans le savoir, tout à fait, eh bien, on se met à le savoir. Voilà.
Mais s'entendre dire qui on est sans le savoir, alors même que c'est nous qui l'énonçons, ce qui est le propre de la psychanalyse, c'est encore autre chose. C'est comme Ulysse qui se réapproprie son nom.
Oui, mais il faut qu'il soit, il faut un tiers.
Oui.
Et le tiers, là, c'est la sirène. Voilà. Et donc, c'est la sirène qui fait qu'Ulysse est attaché à son identité. Comme l'être se caractérise par autos et autos, c'est-à-dire attaché à son identité, empédon, là. Et cet adjectif, on pourrait y revenir, parce que cet adjectif empédon, il arrive à des moments très précis de l'Odyssée, à des moments toujours magnifiques. Alors, le premier moment où il arrive, c'est quand Ulysse est chez Calypso, c'est-à-dire qu'il est pendant 7 ans chez la nymphe bouclée. Bon. Un peu lassé, il ne goûte plus les plaisirs de la nymphe au bout de 7 ans, bon d'accord, il a envie de partir, de toute façon il a envie de partir, et c'est là où il choisit d'être mortel. Et bien là, il est dit « empédon », il dit « je suis, je suis les pieds plantés dans le sol, là,
enraciné.
Dans cette île, j'arrive pas à m'en aller.
Je suis bloqué,
voilà, je suis bloqué dans cette île, et je veux partir, je veux retrouver Pénélope, et je veux le retour, le jour, voir le jour du retour. Bon, c'est la première fois où il est dit empédon, et il est dit faire fondre son aïone, c'est-à-dire son temps, sa force. Aïone, c'est un mot sublime, si je peux m'arrêter un instant là-dessus. Aïone, c'est tous les liquides du corps. C'est le sang, le sperme, la sueur, les larmes. Et c'est le nom de l'âge. C'est le fait qu'on a un aïone, c'est-à-dire qu'on a un temps de mortel à vivre. Hein. Et ça donne aevum, l'âge. Bon. Donc, l'aïone, il fait fondre son aïone parce qu'il est encalaminé oui. Chez Calypso, empédon. Bon, ça c'est la première fois que l'adjectif apparaît de manière très signifiante. La deuxième fois, c'est là, il est empédon. Et la troisième fois, c'est à propos de Pénélope.
Alors on va peut-être vous laisser lire le texte Barbara Cassin.
Ulysse au grand cœur était rentré à la maison. Le baignant, le frottant d'huile, son intendante Eurynomée l'avait revêtu d'une belle robe et d'une belle écharpe. Sur sa tête, Athéna répandait la grâce. Sortant de la baignoire, il avança, semblable d'allure aux immortels. Il reprit le siège qu'il venait de quitter en face de son épouse, Pénélope, et lui adressa ce discours. « Malheureuse, en toi d'entre les femmes femelles, les habitants des demeures de l'Olympe ont mis un cœur de fer. Nourrice, dresse-moi un lit, que je dorme seul, car dans la poitrine, elle a un poumon de fer. » La toute sage Pénélope lui répondit. « Malheureux, je n'ai ni mépris ni négligence, je ne suis plus surprise. Je reconnais bien celui qui, loin d'Ithaque, partit un jour sur son navire aux longues rames. Va, Euryclée, dans notre chambre aux solides murailles, préparer le lit que ses mains avaient fait. Dresse les bois du cadre, et mets-y le coucher, les feutres, les toisons, avec les draps moirés. » C'était là sa façon d'éprouver son mari. Mais Ulysse, indigné, répliqua à sa prudente épouse, « Ô femme, as-tu bien dit ce mot qui me torture? Qui donc a déplacé mon lit ? » Le plus habile n'aurait pas réussi sans le secours d'un dieu, car un grand signe est façonné dans la fabrication de ce lit. C'est moi seul qui l'ai travaillé et personne d'autre. un tronc d'olivier feuillu poussait dans l'enceinte, haut, florissant, et son épaisseur était comme une colonne. Je construisais autour, en blocs appareillés, les murs de notre chambre. Je la couvris d'un toit, et quand je l'eus munie d'une porte aux panneaux de bois pleins, sans fissure, c'est alors seulement que de cet olivier, coupant la frondaison, je donnais tous mes soins à équarrir le fût jusque à la racine. Puis, l'ayant bien poli et dressé au cordeau, je le pris pour montant pour chevailler le reste. À ce premier montant, j'appuyais tout le lit dont j'achevais le cadre. J'y tendis des courroies d'un cuir rouge éclatant. Je fais donc paraître ce signe au grand jour. Et je ne sais pas si le lit met toujours « Plantez-la, Empédone, femme !» ou si quelqu'un l'a tiré ailleurs en coupant le tronc de l'olivier. Pénélope, alors, ses genoux et son cœur se déliaient. Elle avait reconnu les signes bien plantés, Empéda, comme le lit dans l'olivier. Pleurant, s'élançant vers lui et jetant ses bras autour de son cou, elle féconda son visage et dit « Non, contre moi, Ulysse, ne t'irrite pas, toi qui es pour moi le plus inspiré des hommes. »
Merci pour cette lecture, Barbara Cassin. C'est donc un extrait du chant 23, le moment où Pénélope reconnaît Ulysse grâce
à ce signe, Empédone, qu'ils sont seuls à partager. Donc il n'y a que tous les deux, peut-être l'intendante, qui savent, la vieille Eurynomée, la vieille nourrice, qui savent que Ulysse a creusé un lit, leur lit conjugal, dans un olivier encore enraciné, c'est-à-dire dans un olivier, alors sacrément, Empédone.
Parce qu'il faut le rappeler, Barbara Cassin, pour les auditeurs ou auditrices qui auraient oublié justement la fin de l'Odyssée, c'est que Ulysse réussit à rentrer chez lui. Mais le paradoxe, c'est qu'il ne reconnaît pas ce qui lui est le plus familier et sa propre famille ne le reconnaît pas. Son chien, son fils, la nourrice vont peu à peu le reconnaître, mais résiste Pénélope, son épouse, qui l'attend depuis le début de ses aventures.
On peut comprendre pourquoi. Parce que Ulysse a menti tout le temps. Ulysse s'est présenté à Pénélope en disant « Oui, je suis un vieux crétois, etc. J'ai vu, ouais, non, mais t'inquiète pas, j'ai vu Ulysse. Il m'a donné d'ailleurs cette agrafe, là, tu la reconnais, mais c'est parce qu'il me l'a donné. Et je t'assure, il va rentrer un de ces jours. » Donc, il est ignoble. Il est sa ruse.
Et lui en veut en plus.
Sa ruse est ignoble. C'est-à-dire que c'est incroyable que ce type qui est parti depuis 20 ans, qui voit sa femme, qui l'entend pleurer à côté de lui en appelant Ulysse, parce qu'elle se doute, elle a un rêve, elle se doute que ce type-là, c'est... Enfin, c'est quelqu'un, bon. Et il ne la prend pas dans ses bras. Donc, comment voulez-vous qu'elle accepte de le reconnaître comme ça ? Après qu'il est tellement... menti. Et pour de bon, s'il n'avait pas menti, il avait peur de ne pas réussir à tuer tous les prétendants, à pendre toutes les servantes, alors qu'ils sont juste trois. Il y a Ulysse, il y a Télémaque, qui l'a reconnu.
Son fils.
Il y a
le chien.
Donc. Le chien, il est mort. Il est mort quand il a senti Ulysse, il est mort sur son tas de fumier.
Voilà,
Argos,
d'un coup.
Oui. Et puis il y a le porcher fidèle, chez qui Ulysse a rencontré Télémaque, et il y a encore un vacher. Donc ils sont quatre contre un nombre de prétendants extraordinaires qui n'arrêtent pas d'être puissants et de jeunes,
etc. De piller les vivres d'Ulysse.
Absolument.
Et de Télémaque.
Absolument.
Et Pénélope. Voilà. Donc c'est là aussi cette idée, on a très peu de temps qui nous reste devant nous, Barbara Cassin, il nous reste 2-3 minutes pour continuer à parler de, donc c'est peu, de l'Odyssée d'Homère, mais vous y voyez dans ce texte l'idée de la reconnaissance, d'être enfin reconnu. Pourquoi cette importance ici du terme encore Empédone? Et juste une question par rapport à Empédone. Est-ce que parfois, Barbara Cassin, vous rêvez en grec et vous voyez le mot Empédone qui surgit comme ça
Non, je ne rêve pas en grec. Et puis d'ailleurs, je ne me souviens pas beaucoup de mes rêves.
Ah.
Non, ce qu'il y a de magnifique, je trouve, dans ce texte, c'est que c'est l'étape ultime de la reconnaissance, mais ce n'est pas l'étape ultime de l'Odyssée. Parce qu'Ulysse doit repartir. Jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un qui lui dise... alors qu'il a une rame sur l'épaule. Étranger, quelle est cette pelle à grains sur ta brillante épaule? C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit allé tellement loin qu'on ne connaisse plus la mer et qu'on ne connaisse plus tout ce qui fait la Grèce et Ulysse.
Mais il faut quand même savoir, Barbara Cassin, que si Ulysse doit repartir, c'est parce qu'il doit payer le fait d'avoir tué le Cyclope, le fils de Poséidon.
Aveuglé.
Voilà, aveuglé.
Le fils de Poséidon.
Et Poséidon ne le supporte pas. Et donc, pour se racheter, Ulysse doit repartir.
Absolument.
Ce qui veut quand même dire que Ulysse paye de sa personne le fait d'avoir voulu être quelqu'un en se nommant auprès du Cyclope.
Absolument. Et bon, Ulysse n'a pas arrêté de mentir à tout le monde. Donc, c'est ça qui est formidable, c'est peut-être cette métisse, justement, qui le caractérise. C'est-à-dire cette ruse liée au pseudos, c'est-à-dire au faux, au mensonge, à la fiction, qui fabrique l'épopée.
Et alors, où est l'identité là-dedans, Barbara Cassin?
On ne sait pas si Ulysse est un sale petit bourgeois, comme disent Horkheimer et Adorno. On voit Magritte qui le peint sur un petit tapis dans un hôtel, comme ça, en train d'essayer de ramer. Bon. Ou s'il est l'être par excellence de la double nostalgie, c'est-à-dire la nostalgie du même, Heimweh, home, sweet home, chez soi, et puis la nostalgie de l'ailleurs, Sehnsucht, encore plus loin. Et ça, c'est magnifique. Et je crois que c'est ça, sa vraie identité, c'est d'être entre ici-bas, ici-même, là, Empédon et ailleurs.
Regarde dans le vide, j'ai des idées noires. Je passe de l'amour à la haine et j'ai des trous de mémoire. Solo près du lit, je me refais l'histoire. Y'a des cachets dans ma main droite, j'ai fait quoi hier soir et ça va me tuer. Comme une arme dans ta main que j'aurais chargée. Comme une maladie que je laisserai m'emporter. Je me dis pourquoi dans ma vie je t'ai laissé rentrer. Je t'ai laissé rentrer. Alors me tais, je l'ai fait te croire, je l'ai fait obéir, je l'ai fait. Fais de moi tout ce que tu voulais. Fermer les yeux, je l'ai fait sourire, je l'ai fait. Quand je vois tout ce que t'as fait de moi, je me déteste, moi je me déteste. Tu m'as fait des dingueries, toi, tu voulais me détruire, toi. Je me déteste, moi je me déteste. C'est désormais tu et tu disais que tu voulais mon bonheur. Je me déteste, moi je me déteste. Je pensais l'avoir mérité. Je me déteste, moi je me déteste. Mais le pire dans tout ça, tu sais quoi? Je t'en veux même pas. Ah.
Cette chanson, pour introduire cette séquence de fin d'émission, après avoir évoqué, Barbara Cassin, l'œuvre qui vous a accompagné toute votre vie, qui a transformé votre vie depuis le collège, place à un auteur que vous n'aimez pas, que vous ne comprenez pas, ou que vous comprenez très bien mais que vous n'aimez pas, ou que vous n'arrivez pas à lire, qui vous résiste, qui avez-vous choisi?
J'ai choisi Céline parce que je sais que c'est un auteur magnifique et que moi je n'ai jamais pu le lire. C'est-à-dire que j'ai essayé plusieurs fois, plusieurs livres de Céline, j'ai ouvert plusieurs pages et j'ai toujours refermé. Voilà. C'est juste non.
Est-ce que ce qui peut vous arrêter, c'est intéressant parce que la semaine dernière, notre invitée Jennifer Tamas, spécialiste de littérature, professeure de littérature, spécialiste de Racine, de Madeleine de Scudéry, donc du 17e, a aussi choisi Céline pour la manière, pour sa misogynie, son antisémitisme. Est-ce que ça a quelque chose aussi qui vous guide dans ce désamour ou dans ce rejet, pensez-vous?
Évidemment, il y a tout ça dessous. C'est-à-dire que mes parents, au fond, m'ont interdit d'apprendre l'allemand, en gros. Et bon, Céline, c'est tout ce qu'ils m'ont interdit. C'est-à-dire, en effet, l'antisémitisme plus, la misogynie, etc. Mais en même temps, je sais que c'est un auteur magnifique. J'ai une amie qui l'a traduit en grec moderne. Et j'ai été voir la maison de Céline et j'ai vu sa femme. Danseuse. Bon, et tout ça est passionnant, mais ça n'est pas pour moi.
Alors, qu'est-ce qui n'est pas pour vous? Vous pensez que c'est la langue? Vous pensez justement que c'est la personnalité de l'auteur? Est-ce qu'on a des auteurs qui ne sont pas faits pour nous, de fait, et qu'on aura beau s'entêter à vouloir les lire, ça ne passera jamais.
Mais moi, je ne m'entête pas, je n'ai pas envie.
Ah oui, c'est ça, mais vous avez quand même essayé.
J'ai essayé. Non, c'est vrai que j'ai essayé plusieurs fois, mais pas très longtemps, parce que j'ai une parade, c'est que je m'endors.
À l'inverse, quelqu'un qui vous parlerait de l'Odyssée d'Homère en vous disant qu'il ne parvient pas à le lire, qu'est-ce que vous pourriez lui répondre pour lui donner envie de le lire ?
De le lire avec lui. Je suis sûre.
Que vous ?
Oui.
Vous veniez le lire avec lui ?
Oui.
Mais imaginez s'il y a des milliers de personnes dans le monde qui n'arrivent pas à lire l'Odyssée d'Homère, vous accompagnerez toutes ces personnes ?
Non, mais il y en a pas, elles n'ont pas toutes envie de me dire « j'arrive pas à le lire ».
C'est vrai.
Si une personne venait me dire « oh, j'arrive pas à lire l'Odyssée », je dirais « mais pourquoi ?» Bon, et puis après, je lirai le début de l'Odyssée, mais très mot à mot. Et je le raconterai à ma manière avec la personne. J'adore faire ça.
Vous avez des enfants, des petits-enfants, Barbara, oui. Cassin, je me permets de le dire. Est-ce que vous le faites avec eux ?
Pas encore, peut-être.
Parce que c'est quand même...
Mais il faudrait qu'ils me le demandent. Mais ce que j'ai envie de faire, par contre... En revanche, c'est de faire des petits livres pour les plus petits de mes enfants, de mes petits-enfants. Tintin chez les Soviets, hein,
oui.
Ulysse chez Circé, Ulysse chez Calypso, etc. Avec des très belles images, des très beaux livres. Des très beaux petits livres avec une image venue des vases, une, et une phrase venue de l'Odyssée, une, mais belle et bien traduite. Et plusieurs fois peut-être.
Donc vous aimeriez, Barbara Cassin, faire un livre avec une image et une phrase ?
Oui, pour un enfant, pour des enfants de 5 ans.
C'est très court, une phrase. C'est presque une œuvre d'art que vous proposez,
oui.
Un livre œuvre d'art où la voilà. Phrase devient...
Un livre beau.
Un livre beau.
Mais ça peut être Le Chant des Sirènes, hein. Une phrase, ça peut être Outis Métis, ça peut être Nausicaa, je te genouille.
On n'en a pas parlé, non. Nausicaa, je te genouille. Alors, juste un petit mot sur Nausicaa.
Ben, Nausicaa, c'est le moment où Ulysse invente le performatif, c'est-à-dire quand dire, c'est vraiment faire. Mmh. Il est tout nu, il est réveillé par un ballon qui lui tombe dessus, et il voit Nausicaa, une jeune fille, et ses servantes qui s'enfuient. Mais Nausicaa, c'est la princesse, elle reste face à lui. Alors, il lui dit « Je te genouille, car j'ai trop peur de te prendre les genoux. » Il est tout nu, il ne peut pas faire le geste du s'oubliant, c'est-à-dire la prendre au genou, donc il l'invente en mots. Et il tient ce discours qui gagne, c'est le terme de l'Odyssée, hein, ce discours plein de profit. « Je te genouille, car j'ai trop peur de te prendre les genoux. »
Merci beaucoup, Barbara Cassin. De vous, on peut lire L'Odyssée au Louvre, un roman graphique paru aux éditions Flammarion, aux éditions du Louvre. On peut aussi lire, vous l'avez évoqué, La Nostalgie, Quand donc est-on chez soi ? Ulysse est né à Rennes, c'était paru aux éditions Autrement, c'est un très beau texte. Je cite aussi votre dernier livre, Le Bonheur, sa dent douce à la mort, une autobiographie philosophique paru en 2020 chez Fayard. Un grand merci à vous encore, Barbara Cassin.
Merci.
Et un grand merci à Manon Delasselle qui a préparé l'émission, à Nicolas Berger à la réalisation, à Noé Chaban à la prise de son. Toutes les émissions sont disponibles sur le site de France Culture et sur la toute nouvelle application Radio France, enfin qui n'est plus toute nouvelle que ça finalement. La semaine prochaine, c'est Géraldine Mühlmann et son équipe que vous retrouverez à ce micro pour une nouvelle série d'Avec Philosophie.